imagination.
Porosité.
Contamination.
Circulation.
Communication. Correspondance.
Transport. Transport. D'espace. Transition d'espace.
Espèce d'espace.
Quelque chose de fin. Espace. Espace fine.
Ah, tu veux dire en typographie ? Espace fine.
Ça me plaît bien, espace fine.
Oui.
Espace fine.
Aujourd'hui, deux auteurs pour un livre, Laisse venir, qui n'existe que sous forme numérique et que la Marelle vient de publier. Ces deux auteurs, ce sont Anne Savelli et Pierre Ménard.
Anne Savelli, Pierre Ménard.
Oui, Anne Savelli, qui est auteur, qui a publié en particulier Fenêtre Open Space aux éditions Le Mot et le Reste en 2001, Franck chez Stock en 2010, Décor Lafayette chez Inculte en 2013, qui tient un blog intitulé Fenêtre Open Space, un site intitulé Dans la ville haute, qui a publié également des ouvrages en format numérique uniquement, comme Les Oloé, Espace élastique, ou Lire ou écrire aux éditions des fictions, ou alors Autour de Franck, chez Publi.net, avec Thierry Menstingel. Elle mène de front plusieurs activités, à la fois sous format papier et sous format numérique, avec beaucoup de liens, beaucoup d'échos de ses supports, de l'un à l'autre, de ses supports, mais aussi de ses livres, et avec l'idée d'un travail sur l'extension. Et Pierre Ménard. C'est le pseudonyme de Philippe Diaz. Il est actuellement bibliothécaire à Melun. Il écrit, il mène des ateliers d'écriture et de création numérique. Il a créé justement la revue numérique D'ici là, publiée depuis 2008 sur le site publi.net. Et parmi ses publications, des livres en format papier et en format numérique. Par exemple, Le Spectre des armatures aux éditions Le Cartanier en 2007, c'est chez un éditeur de Montréal. Les accolades, un grand poème poster qui vient tout juste de sortir aux éditions Contre-Mur à Marseille en 2014. En version numérique, il y a par exemple un livre avec Esther Salmona. Tiens donc, En un jour, chez Publi.net en 2008. Mais aussi, Comment écrire au quotidien, 365 ateliers d'écriture chez Publi.net en 2010. Beaucoup de textes et c'est surtout son support d'écriture. En fait, c'est surtout le blog liminaire.fr.
Eh bien moi, effectivement, j'ai fait semblant de ne pas connaître Pierre Ménard. Mais en fait, nous sommes rencontrés en 2005. Donc ça va faire bientôt 10 ans. Et c'était une rencontre numérique, tout d'abord, avec une petite publication d'un texte sur Détroit, sur son site qui s'appelait à l'époque Marelle. Et voilà, que des croisements. Et ensuite, aussi une publication dans la revue D'ici là, des croisements, ce fameux En un jour, qui est à la fois papier et à la fois sur support numérique, donc sur le site publi.net. Et puis des repas mémorables où on parle de maquis corse, de soufflé. Et puis en fait des retrouvailles pour cette émission, Laisse venir.
On va continuer avec leur voix, celle d'Anne Savelli, de Pierre Ménard, qui se croisent et se recroisent autour de ce livre. Je pense qu'on peut peut-être y aller, non ?
On y va. Bon voyage.
Laisse venir. La Marelle avait invité Anne Savely en résidence il y a 2 ans. Et ensemble avec Anne, on a imaginé un projet qui reliait Paris, où nous habitons tous les deux, puisque nous sommes à peu près du même quartier dans le 10e arrondissement, elle dans le 19e, moi dans le 10e, qui relierait Paris à Marseille, où on était invité dans le cadre d'une opération qui s'appelle les 48 heures chrono, à faire une performance. Donc, tout de suite, Paris, Marseille, pour moi, lecteur de Cortazar, c'est forcément les autonautes. Donc, j'ai relié ce projet à Google Street View, parce que je pense qu'effectivement, dans Google Street View, il y a quelque chose qui est très proche de Cortazar, une sorte de temps arrêté, de temps figé, dans lequel on peut aller se balader, on peut rentrer dans des espaces, dans des temps, mais qui sont figés, et qui, quand on va les visiter, vont rappeler, surtout si on prend, nous c'était notre choix, chacun avait fait un parcours qui est différent, un Paris-Marseille, alors vraiment pas du tout par l'autoroute du Sud, vraiment avec des courbes chacun très différentes, qui reliaient des lieux de notre enfance, de notre passé, et qu'on a été interrogé. Donc on a fait le parcours sur Internet, reprenant tout ce parcours en cliquant et en allant capter, enregistrer, faire des captures d'écran des différents lieux qu'on revisitait. Et donc, on a fait un parcours comme ça, racontant chacun avec nos propres voix. Là aussi, quelque chose que j'aime beaucoup dans le texte de Cortazar et de Carol Dunlop, quelque chose qui s'interrogeait, était en écho, mais au départ, sans vraiment être fait ensemble, chacun de son côté, là. Et puis, quand on a été invité à la Marelle, on a pris le train ensemble et chacun a découvert le texte de l'autre.
Au départ, c'est un projet de Pierre. C'est un projet un peu ancien qu'on n'avait pas développé. On avait fait une petite esquisse de ce qu'on voulait faire. Mais le Paris-Marseille, c'est une idée à lui. Et quand tu m'as proposé de venir à la Marelle, évidemment, Marseille a résonné tout de suite avec ce projet-là qu'on avait, non pas dans les tiroirs, vu qu'on n'a plus de tiroirs, mais enfin voilà, dans nos fichiers, dans nos dossiers. Et j'ai pensé que ce serait vraiment une bonne idée, non seulement d'effectuer le trajet chacun de notre côté, de chez nous, et en plus à Paris, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, donc c'est assez drôle. Ce qu'au départ on ne savait pas, parce que nous on s'est d'abord rencontrés virtuellement, et puis un jour on s'est rencontrés en vrai, et on s'est aperçu qu'on n'habitait pas très loin, et après on n'a pas arrêté de se croiser les jours d'après. Et donc tout d'un coup, alors c'est dessiné donc l'idée de faire ça en 10 étapes, donc parfaitement virtuel, de choisir 10 villes, et alors on ne s'est pas concerté. Et on s'est à un moment donné la liste de nos villes et on s'est aperçu que moi je partais par l'Est et qu'il partait par l'Ouest, hein, qu'on n'avait pas de ville commune, sauf au départ Béziers si je me souviens bien, et puis finalement toi tu l'as pas écrite. Et donc après, on a eu envie à un moment de venir en voiture pour vraiment éprouver quoi, le trajet commun. Mais pour des questions pratiques, on ne l'a pas fait finalement, donc notre trajet réel en train qu'on vient de refaire là juste à l'instant, bon, il est assez banal, quoi. C'est un trajet en TGV, tout simple. Mais par contre, on a on s'est créé des attaches avec nos villes, qui sont maintenant des attaches aussi autres que celles de souvenirs ou de rêves.
Mon premier site s'appelait Marelle, avant de s'appeler Liminaire. Donc, évidemment, Cortazar, pour moi, c'était une figure incontournable. L'idée, c'était vraiment de travailler aussi sur quelque chose que je mets en pratique très régulièrement dans mes ateliers de création. C'était d'interroger Google Street View, de voir ce qui était possible de faire avec cet outil assez fantastique qui interroge aussi bien l'espace que le temps. Google Street View, c'est une carte créée par Google qui permet un enregistrement photographique à 360 degrés d'une grande partie des rues, des routes, des chemins du monde entier. Il y a plein de zones, bien entendu, qui ne sont pas couvertes, mais beaucoup de zones urbaines, en tout cas, le sont. Quand on travaille en atelier autour des images, capture d'images d'endroits qui ont été figés à un moment donné, qui peuvent être à une saison à un moment donné et dans une autre saison à un autre moment donné, en fonction du moment où ça a été capté, ça interroge forcément notre rapport au lieu, notre rapport au paysage. Donc quand l'idée est venue de travailler avec Anne sur un trajet, Paris-Marseille s'est assez vite imposé, d'abord parce que nous habitons Paris et parce que l'un et l'autre avons une relation particulière avec Marseille et voilà, ça semble être un trajet assez fort sous l'ombre tutélaire de Cortazar, bien évidemment, qui lui l'a fait avec sa femme à la fin de sa vie en s'arrêtant sur les aires d'autoroute et en ayant un regard sur le trajet justement qui interrogeait le banal, le minuscule, ce qu'on ne regarde pas, ce qu'on ne voit plus à force de passer, voilà, parce que c'est la direction qui importe.
Vendredi 4 juin, air de la forêt. Nous n'irons jamais jusqu'à prétendre que cette expédition, pour aussi risquée et hasardeuse qu'elle puisse être, soit en quelque façon comparable à celle que Werner Herzog imagine dans Aguirre ou la colère de Dieu. Il n'y a ni indiens, ni flèches empoisonnées, et encore moins de singes. Seulement des fourmis. Comme chacun sait, la fourmi est une émouvante bestiole. Le seul ennui, c'est que, comme les nazis et les fanatiques de rock, elles n'arrivent jamais seules. Nous avons découvert que les industrieux insectes avaient escaladé les pneus et tout envahi en légions épaisses. Tandis que quelques 700 soldats essayaient d'en finir avec une plaque de beurre, plusieurs milliers proliféraient du côté du saucisson, des biscuits salés et des 6 bananes achetées le jour même dans l'espoir de faire un riz à la cubaine Comac.
De Julio Cortázar, grand écrivain argentin né en 1914 et mort en 1984, on connaît surtout les contes fantastiques et son grand roman Marelle. Mais il y a un autre livre, essentiel pour lui et pour cette émission, Les Autonautes de la Cosmoroute. En 1982, Julio Cortázar et sa femme, l'écrivain et photographe Carole Dunlop, l'un et l'autre malades sans le savoir ou sans que l'autre le sache, décident de faire ensemble un voyage, Paris-Marseille, en combi Volkswagen, qu'il prénomme Fafner. Sans jamais quitter l'autoroute, ils passent un peu plus d'un mois dans cet espace-temps insolite, comme s'ils en étaient les explorateurs. C'est un double testament amoureux, bouleversant autant qu'une expérience inédite de littérature, un journal de bord assorti de photos, de dessins, de croquis. Les Autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel de Paris à Marseille, est le dernier livre publié du vivant de Cortazar. Il s'achève sur le Vieux-Port.
Julio Cortázar écrit une littérature du besoin. Une littérature qui invente sa forme au fur et à mesure que les besoins expressifs naissent. Et la forme du besoin, ici, c'est celle d'une chronique multimédia. C'est une chronique sous deux sens. Tout d'abord, c'est une chronique dans la grande tradition de la chronique des Indes, c'est-à-dire cette chronique où l'explorateur de l'Amérique, hein, de la conquête de l'Amérique par les Espagnols, fait le portrait du monde qui l'entoure et cherche à y trouver une cohérence, un sens, en général sans le recours à la fiction. Donc on a d'abord ce sens-là de la chronique, et puis un deuxième sens qui est la chronique comme une variante de l'écriture personnelle, une écriture sur le vif, un portrait d'une réalité en train d'arriver, tout autant qu'un portrait d'une vie, d'un amour en train d'exister. Et je disais aussi que c'est une forme multimédia. En effet, les autonautes, c'est ce qu'on nomme en psychologie cognitive un document complexe, c'est-à-dire un montage de différents fragments qui ont une nature, une matérialité textuelle différente. Et à cela s'ajoutent également donc, des photographies, des dessins, etc. Et dans l'intention de Cortázar, il y avait aussi, de Cortázar et Dunlop, il y avait aussi le son. Ils disent par exemple « Je regrette que la technologie actuelle ne permette pas d'inclure des cassettes dans les éditions courantes, car les mots ne pourront jamais rendre compte du rire qui s'empara du corps tout entier de Nekmi et qui put s'entendre jusqu'à l'autre versant de la montagne Sainte-Victoire. » Et à de nombreuses reprises, il fait référence à cette radio portative qu'ils avaient dans Fafner, donc dans le combi Volkswagen qui est un des personnages de l'histoire. Et donc ce dispositif éclaté, hein, plusieurs matérialités différentes, ce dispositif éclaté invite le lecteur à tracer son propre chemin, un chemin fait d'associations entre tout ça.
D'autres possibilités et voies à suivre et très riches dans le numérique et qui, à mon sens, font encore plus la spécificité du travail numérique et que nous a appris Cortázar, c'est à la fois travailler sur des objets éditorialement insensés, c'est-à-dire qu'effectivement, la forme des autonautes, c'est compliqué à mettre en forme dans ce... Mais avec le numérique, il y a une vraie richesse. Et si on l'utilise vraiment jusqu'au bout, et aujourd'hui, beaucoup d'auteurs suivent cette voie, comme tu le disais tout à l'heure, d'utiliser du son, de l'image, soit en s'en inspirant, soit en les mettant directement dans leurs propres ouvrages. Et ça, effectivement, à mettre en page, c'est très simple. Et le numérique amène cette richesse-là.
L'important, c'est lire, n'importe comment. Voilà. Et donc, je trouve que le numérique, aujourd'hui, nous donne des possibilités, et c'est le sujet de ma collection, c'est que je veux publier avant tout des livres que j'aime, voilà, et des auteurs que j'aime, mais surtout des livres qui sont introuvables en papier, et en même temps, des livres qui c'est impossible pour eux arriver en papier. Non? Et donc, le numérique donne ça. Donc, des livres épuisés, donc des livres trop longs, il y a trop de pages. Non? Et le troisième, ou sinon, le contraire, des livres, des textes très courts, mais qui ont une puissance énorme.
Mon lieu d'écriture principal est Internet. J'ai un site qui s'appelle liminaire.fr. C'est vrai que c'est là que j'écris au quotidien, on va dire, même si ce n'est pas tous les jours. Mais en tout cas, c'est rare que j'arrive à passer trois jours sans écrire quelque chose. Toujours avec de l'image, parfois du son. Enfin voilà, des choses qui sont au cœur même de ce qu'on appelle l'édition numérique. Moi, l'idée, c'est à la fois au quotidien d'écrire et d'expérimenter des choses sur des plateformes ou sur des choses comme un site qui sont simples à gérer par tous, et en même temps d'avoir des expériences de collaboration avec d'autres et d'avoir des projets ensuite collaboratifs avec d'autres où on se rend compte qu'en fait, ça on dit toujours ça va vite d'écrire en numérique et de publier. C'est pas vrai du tout. Un livre comme celui-là, La Preuve.
Ça, je pourrais en parler.
Mais c'est pas forcément une frustration, puisque de toute façon, dans le monde de l'édition, on a toujours été habitué qu'un texte, ça permet aussi sa validation. Sauf que maintenant, les validations sont complètement différentes entre le livre imprimé et le livre numérique. Et que là, la validation, elle vient aussi, et moi je trouve que c'est ce qui fait l'enrichissement au sens noble du terme de ce livre-là, c'est le temps qu'on y a mis, qui fait que c'est pas un produit marketing, c'est pas quelque chose qu'on fait pour répondre à une demande, c'est quelque chose qu'un projet qui mature progressivement entre deux auteurs, un éditeur qui nous fait confiance, qui nous fait venir plusieurs fois, dont on sent que y a un intérêt. On l'expérimente aussi dans différentes formes, parce qu'on a fait une performance, on a fait des lectures, on a écrit ensemble et puis à côté. Donc ça permet de nourrir le projet, de l'accompagner véritablement, de lui donner un vrai plus. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans des projets d'édition numérique, c'est de trouver l'osmose entre partenariat avec un autre auteur, éventuellement, avec un graphiste, avec un photographe, avec un artiste qui va faire du son, et puis un éditeur qui accompagne l'ensemble, ce qui est souvent très lourd parce que ça prend du temps à faire, ça demande des moyens aussi, techniques, technologiques. Et trouver aussi les gens, et il y en a malheureusement encore très peu, qui savent fabriquer des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont capables de comprendre l'intérêt d'un projet qui, là, pas forcément compliqué, mais qui a un parcours, a une ossature, et il faut l'exprimer graphiquement, il faut l'exprimer structurellement. Voilà, et ben, tout simplement ce petit parcours-là qui est disponible permet une lecture qui va être libre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de choisir de passer, de suivre le parcours de Anne depuis Paris à Marseille,
ah bon,
et que vous préférez passer voir d'abord les miens, vous avez ce choix-là.
Sans blague.
Voilà, ou si vous voulez aller directement dans une ville où vous avez vous-même des propres souvenirs, vous pouvez le faire. Ça a l'air de rien, mais en même temps, ça répond exactement à une demande, à quelque chose qu'on avait en tête en travaillant, en collectant les images de Street View. Et c'est bien et c'est important qu'un éditeur puisse trouver les moyens, les personnes qui savent le faire pour le réaliser.
Alors d'abord, c'est vrai qu'il y a un côté obsédant au bout d'un moment, quoi. On est là à se balader dans Street View pendant des heures, on balade le petit bonhomme là partout, et on pourrait aller partout, quoi. Potentiellement on peut aller partout, donc c'est fascinant. Pourquoi là, pourquoi pas comme ça, et pourquoi je choisis tel angle? Parce qu'on a c'est pas parce que c'est pas nos photos qu'on choisit pas un angle, on choisit un angle, quoi. Donc en fait on passe son temps à cadrer, à changer, à zoomer, à dézoomer, enfin bon voilà. Et moi je sais que c'était pas la première fois que je travaillais avec de l'image, puisque j'ai un autre livre numérique qui s'appelle Désoloé, qui est un livre avec photos, et où je rebondissais. La photo est comme ça intégrée au texte, et en fait, des fois, ma phrase n'est pas terminée, elle se termine après la photo, et le fait qu'il y ait la photo, c'est presque une partie grammaticale de la phrase, quoi. Voilà. Et c'est des choses sur lesquelles j'avais déjà travaillé, mais avec Street View, c'était encore différent, puisqu'il y a une homogénéité de l'image. Et pour en revenir, oui, au travail de déambulation, oui, ça devient envahissant presque à la fin.
Nous avons deux auteurs, il y a Pierre, il y a Anne.
En fait, Pierre, il s'appelle Philippe.
Comment ça?
Oui, Philippe Diaz, c'est son vrai nom. Mais bon, il s'appelle Pierre, c'est son nom d'auteur.
Donc, il a une double identité. Mmh. Très bien. Bon, là, jusqu'ici, c'est à peu près clair. Mais j'espère qu'il n'y a personne d'autre quand même.
Il y a Dita Kepler.
Qui est Dita Kepler?
Dita Kepler, c'est l'avatar créé par Anne Savelli sur le jeu Second Life. Enfin, elle s'en est jamais servie, d'ailleurs, vraiment, elle n'a jamais vraiment joué à ce jeu, mais en réalité, c'est un avatar dont elle se sert pour écrire aussi, ça prend des formes différentes.
Il n'y a que Anne qui se sert de Dita, ou Dita se sert de Anne? Qui se sert de Dita?
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de Dita, parce que Anne a volontairement laissé cet avatar libre, et pour eux. Et c'est ce qu'a... a fait Pierre Ménard, qui s'est empressé de lui créer un compte Twitter, par exemple, à l'insu d'Anne Savelli, mais à sa plus grande joie.
Donc, Pierre, mais c'est pas Philippe?
Je pense que c'est Pierre, là, oui. Oh, je suis pas sûr.
Je ne m'y retrouve plus trop, là, Pascal. Ouais. Alors, tu es bien, Pascal?
Oui. Ouais. Enfin, bon. Pardon. Enfin, bon, quand je dis bon, c'est moi. Parce que je pense aussi à François Bon. Qui, dans cette histoire-là, c'est un écrivain qui s'intéresse beaucoup au numérique, on le sait, et aux ateliers d'écriture, etc. etc. Mais François Bon, ça m'amuse à chaque fois qu'il parle de Pierre Ménard, il dit toujours Philippe Diaz, alias Pierre Ménard.
Alors, parenthèses.
Entre parenthèses. Enfin, on entend sa parenthèse dans sa voix. Au fait, Esther Salmona, c'est un pseudo? Bon, on fera un truc un autre jour là-dessus, non?
Peut-être, ou avec qui?
Avec Pierre Ménard et Anne Savelli. Bah, on va les reprendre peut-être un peu là.
Quand j'ai envie d'écrire quelque chose, alors ça m'apparaît très soudainement. Par exemple, je vais écrire un livre sur Franck, je vais écrire 3 livres sur la notion de décor. Voilà. Et ça me prend, ça surgit comme ça, mais ça surgit sûrement pas de nulle part. Ça doit faire longtemps que je marine ça, mais sans m'en rendre compte. Et après, ça fait des années, mes histoires de décor et de mon personnage, Dita Kepler, j'ai commencé à y penser en 2006, en 2014. Et là, j'en ai un papier qui vient de sortir avec Dita Kepler, qui est pour la première fois sur papier. Donc, j'ai un livre papier qui sort en même temps que Laisse venir, qui est numérique. Donc, oui, effectivement, les choses... En fait, il y a des temporalités différentes, parce que d'abord, je ne mets pas le même temps pour écrire chaque livre. Et puis, effectivement, je travaille sur plusieurs projets, certains numériques, certains papiers. Il ronde est un livre papier avec une artiste qui a fait la couverture, un auteur, Joachim Séné, qui a fait une partie de mon texte. Donc, ce n'est pas que moi qui écris. Et les photos qui sont et de moi que j'ai prises et de Arnaud Delacote qui m'avait invité au bord du lac dont je parle dans le livre. Donc c'est pas forcément numérique égal collectif quoi. C'est un état d'esprit plutôt d'ensemble. Et puis il y a des choses que je fais que toute seule aussi. Là-dedans, Laisse venir, je le rapprocherai un petit peu de Fenêtre, mon premier livre qui est aussi un trajet de métro, un trajet réel qui est né d'une contrainte réelle, d'une contrainte de travail. Et de se dire, ben voilà, j'ai pas le temps d'écrire dans ma vie parce que je travaille à plein temps, parce que j'ai un bébé, parce que voilà. Et donc, je vais écrire dans le métro en allant travailler tous les matins. Et alors, c'est pas du tout comme ça que j'ai écrit pour Laisse venir, mais il y a l'idée d'une progression et aussi l'idée de savoir que le trajet, on voit a priori ce que c'est. Et qu'en même temps, au fil de l'écriture, on sait pas où ça va nous mener. Fenêtre, tous les jours j'essayais de voir quelque chose de différent à la vitre du métro qui était aérien et j'en jamais savoir à l'avance quand je partais chez moi le matin ce que j'allais y voir. Et là un peu pareil pour Street View, je rentre dans Street View, je dis bon allez, aujourd'hui je vais faire telle ville etc. et je sais pas du tout où ça va me mener et ça se sent dans le texte, c'est-à-dire c'est pas que je pars dans tous les sens et que je fais n'importe quoi et que c'est pas contrôlé, c'est que je laisse venir. On s'est jamais dit, on va faire un livre de souvenirs. Moi, je sais que le présent de l'écriture n'arrête pas de faire irruption dans mon texte tout le temps. C'est pas le seul livre où c'est le cas. Et donc, par exemple, enfin, pour être très concrète, moi, j'ai écrit Laisse venir à peu près tout le temps dans mon lit. Donc, je suis pas du tout retournée ni à Sète, ni voilà. Il y a même une ville où je suis jamais allée de ma vie, qui est Asnières. Qui est pourtant pas très loin de chez moi, j'aurais pu, mais c'est une ville fantasmatique, c'est pas une ville réelle du tout. Et en même temps, pendant que j'écrivais ce livre-là, je, Je voyageais pour défendre un autre livre qui venait de sortir, qui était très important pour moi, qui s'appelle Franck. Et donc, il y a des moments où ce présent-là fait irruption. Par exemple, à 7, oui, c'est ça, c'est à 7 vers la fin. En fait, je ne suis pas du tout ni à Paris, ni à 7, ni à Marseille, je suis à Rouen pour parler de ce livre. Et en fait, ça me bouleverse tellement que je ne dors pas, etc. Donc, je suis dans le train et j'ai écrit mon texte dans le train. Et donc, du coup, Rouen apparaît à ce moment-là, ce qui est complètement irréaliste du point de vue du trajet. De toute façon, mon trajet à moi, il n'est pas du tout... il suit à peu près, hein. Je passe pas par New York, mais bon, c'est, je remonte, redescends, c'est un peu n'importe quoi hein, au niveau géographique. Il y a un mélange aussi, il y a des strates comme ça. Et c'est à la fois des strates géographiques et des strates de temps. Puisque, enfin, je sais pas, moi, dans mon texte, il y a des moments où moi, je sais que je parle de choses de quand j'avais 14 ans, d'autres de quand j'avais 25, d'autres de quand j'avais 6, voilà. Et c'est allé... Et moi, ce qui m'a beaucoup servi, c'est que, bon, c'est Pierre qui a trouvé le titre, « Laisse venir », et je trouvais ça assez... Ah, c'est toi qui l'as trouvé, par rapport à Bachung, mais c'est quand même toi. Et moi, sur le coup, je trouvais ça vachement audacieux. Je me suis dit, mais moi, j'aurais jamais pensé ni osé écrire... Enfin, voilà, prendre ce titre-là pour un livre. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Mais du coup, ça me guide pendant tout le texte. Tout le texte, je reviens sur ce laisse venir. Quoi. Bon, et effectivement, je laisse venir à la fois et des souvenirs et ce présent-là qui est assez un peu hanté quoi, par un livre, qui n'est pas celui-là, et par tout un tas de choses personnelles. Alors, c'est un peu troué, c'est un peu elliptique, parce que je veux pas en faire un livre où je raconte ma vie, quoi. C'est pas l'idée. Mais forcément, ça intervient. Quoi. Par exemple, cette irruption du livre dont je vais parler, ça intervient. Alors que je dois parler de Seth, qui est plutôt un souvenir amoureux, calme, etc. Un moment de pause où on se retrouve comme ça, on s'arrête à Seth et puis on va boire un coup à la terrasse et puis on voit le port, et enfin tout ça et voilà. Et que Street View m'amenait ça. Parce qu'effectivement, les images de Street View étaient proches de mon souvenir, ce qui n'est pas du tout toujours le cas dans le texte. Eh bien, il y avait irruption de Rouen et de « je vais lire Franck » et « je parle de la prison ». Enfin, et j'ai décidé de ne pas mettre ça de côté, hein, de ne pas suivre qu'un seul fil. Ça crée aussi une histoire nouvelle, hein. C'est-à-dire que les liens continuent et que de toute façon nous on habite pas loin, puis c'est vrai qu'on a en commun par exemple le pont Lafayette à Paris sur lequel j'ai écrit, sur lequel j'ai pris des photos, etc. Chaque fois qu'on passe, on marche dans nos textes, quoi. On marche dans nos livres. Par exemple à Dijon, ce qui m'a intéressé c'était le fait que ce soit grisé. Donc finalement de Dijon on n'a absolument pas une image. Puis d'ailleurs moi ce que j'ai pris comme capture d'écran, ça n'a rien à voir avec l'image que j'ai moi de Dijon où j'ai juste passé une nuit et j'ai cru que j'avais oublié une bague dans l'hôtel et puis en fait j'allais pas du tout oublier, mais on a fait une volte-face. Bon, finalement Street View nous emmène là aussi, c'est-à-dire on va pas aller chercher ce qui est plus caractéristique, ni même ce qui a été pour nous caractéristique, qui n'est pas forcément l'image générale, quoi. C'est très curieux, vraiment c'est très curieux, parce qu'en fait on pourrait faire 3, 4, 5 versions de Laisse Venir avec les mêmes parcours en faisant chaque fois des livres différents, c'est vraiment, quoi. Et d'ailleurs, je pense que ça s'entend, on n'écrit pas de la même façon, mais on pourrait intervertir les styles presque, et on pourrait, hein, moi je pense que je pourrais développer des choses plus longues comme Pierre, il pourrait écrire aussi, ce serait, en fait c'est un, moi je m'en suis servi en atelier d'écriture aussi, c'est un merveilleux support, parce que on voit comment les gens s'en emparent, et à partir de leurs souvenirs, parce que c'est simple, quoi, c'est simple, mais c'est pas simple, parce que effectivement c'est pas si simple, quoi, et que on sait pas ce que ça va remuer, voilà. Donc c'est vraiment un super matériau, quoi. Ouais.
La direction choisie nous amène parfois à d'étonnantes sorties de route. Et nous voilà glissant sous la pile du pont. Un chemin que je ne connais pas. J'en reconnais le nom, le Gore, qui m'a toujours intrigué. Mais cette voie, ce feu, au fond du jardin, je ne l'ai jamais vu. Il n'entre pas dans mes lointains souvenirs. Je cherche à rebrousser chemin, revenir sur la départementale. Difficile de refaire le chemin à l'envers. Remonter le temps, est-ce toujours aussi dur? Revenir sur les traces de son passé, première démarche, et tomber dans le piège, la fascination des retrouvailles. Les paysages ont changé, fixés dans une saison qui n'est pas celle que j'avais gardée en mémoire, étonnement des retrouvailles aussi. Se perdre dans le dédale des ruelles que l'on croyait oubliées. Finalement, cet endroit a peu changé. Suis-je resté le même, comme ces vieilles pierres me laissent le penser un temps? Nous n'avançons, quel que soit le chemin emprunté, la démarche incohérente ou pas, que le regard figé en arrière de l'enfant que nous n'avons jamais été, mais que nous pensions être. Je sens presque l'odeur des feuilles d'automne, leur craquement sous mes pas, cette légère humidité dans le fond de l'air, vent passager sur mon visage. Vertu de ceux qui ne changent pas. Il y avait cette impression de suspens, écrit Jean-Christophe Bailly dans son ouvrage Le dépaysement, les rues bordées de maisons ou d'immeubles semblant avoir été faites pour infuser, dans un automne perpétuel, un novembre gris et roux, dénué de tout espoir, avec quelque chose, je ne trouve pas mieux, quelque chose de rassurant dans cette sensation d'un temps aluni, se déposant feuille après feuille, presque imperceptiblement, sur des vies usées, absentes. Le vieux pont à Boussy-Saint-Antoine. Je lis le panneau en faïence posé sur le mur que l'on a visiblement rénové il y a peu. Construction antérieure à 1446. Selon une tradition locale, il aurait été édifié entre 1350 et 1360 par Jeanne d'Évreux. Tenter de retrouver son chemin. C'est en empruntant la route à l'envers que je retrouve des paysages enfouis dans ma mémoire.
Ça correspond vraiment à ce que j'essaye de faire quand j'écris, c'est-à-dire à la fois d'aller chercher quelque chose, j'appelle ça le point d'incandescence, quoi. C'est-à-dire vraiment d'aller chercher une sorte de point, je sais pas ce que c'est au départ, mais vraiment il va, c'est là que je veux aller sans le savoir, et c'est là que ça va me toucher, là que ça va me remuer, c'est là qu'éventuellement ça va faire bouger des choses même dans ma vie. Même si c'est des choses qui peuvent paraître dérisoires, hein, pas obligé de parler de grands sujets, tout ça. Bon, là, je cherche ça. Et je veux à la fois être au cœur de ça et avoir de la distance. Parce que je veux pas être dans le sentimental pur et dur. Ou, tu vois, je veux pas que ça me déborde non plus complètement et que ça devienne quelque chose comme ça de... Ouais, de je sais pas tellement comment dire, mais j'ai besoin que ce soit tenu, qu'il y ait une forme. Et en même temps, donc qu'il y ait une distance. Mais la seule distance ne m'intéresse pas. Si c'est pour aller faire de l'ironie et tout ça, bon, pourquoi pas, très bien, puis mettre de l'humour, bien sûr, et tout ça, mais c'est un peu facile, c'est une façon de se protéger. Donc, oui, écrire dans mon lit, c'est une façon de me protéger, mais c'est aussi, mais à ce moment-là, c'est une façon de me permettre d'aller pointer des choses qui vont me déranger, moi, et le lecteur, peut-être qu'il ne va même pas s'en rendre compte, mais voilà, des choses qui peuvent être fragiles, fragilisantes, complexes, et qui sont mes préoccupations du moment. Enfin, quand j'écrivais Laisse venir, j'étais très préoccupée par l'état d'intensité dans lequel le livre sur Franck m'avait mise, et puis dans lequel la réception du livre me mettait, et plus encore que la réception, plutôt le fait d'aller faire des lectures et tout ça. C'était extrêmement fort, et j'avais pas envie de sortir de ça. Et parce que c'était, j'ai l'impression que tout était fade à côté, et en même temps, je savais très bien qu'il fallait que j'en sorte, puisque ça serait devenu névrotique que de rester perpétuellement là-dedans, quoi. Il fallait en sortir. Et c'est ça qui me préoccupe, qu'on laisse venir. Enfin, ça me préoccupe, savoir comment je peux à la fois garder un état d'intensité, mais qu'il faut à la fois que je le perde, parce que sinon je vais plus jamais dormir, tu vois. Alors, tout ce qui était de l'ordre de, d'être zen et tout ça, ça m'était insupportable à ce moment-là, quoi, de me dire, non, alors du coup, il lâchait prise, tu vois, être au calme et tout ça. Pour moi, c'était pas possible, je pouvais pas, voilà, je pouvais pas, j'avais tenté ça avant, et à nouveau après, c'est à nouveau possible de se dire, bon, voilà, essaye de t'octroyer un peu plus de tranquillité, d'esprit, ou...
Oui.
Confort, si on veut, mais le mot confort, bon, il est connoté. Bon, on va dire un peu plus de calme. De calme. Mais à ce moment-là, au moment de l'écriture de Laisse venir, c'est pas du tout ça que je veux. Moi, je veux rester dans un truc très, très fort, que je saurais pas tellement nommer, d'ailleurs, mais voilà, une sorte d'intensité, comme si tout était vital tout le temps. De toute façon, moi, l'écriture, c'est ça, c'est vital tout le temps. Et donc, mais alors, tu vois, un point qui fait que, effectivement, tu... T'es obnubilé par quelque chose, tu vois, t'es... Parce que Franck, moi j'étais là-dedans pendant 3 ans, et pendant 3 ans ça m'obsédait. En même temps, je continuais à avoir une vie, donc il fallait que je m'occupe de ma vie, quoi. Mais en même temps, ça devenait. Enfin, le monde se teintait différemment, quoi. C'est décalé, c'était pas juste raconter un trajet Paris-Marseille quelconque, quoi. C'était profiter pour revenir sur les liens entre le vivant et l'écriture, effectivement ce qu'on vit et ce qu'on écrit et qui fait des passerelles sans arrêt. Puisque ce qui est aussi passionnant, c'est que l'écriture elle amène de la vie. C'est pas juste qu'on va essayer de capter de la vie par l'écriture, c'est que voilà, là on est en train de discuter, tu vois, on est face à la mer. À Marseille, et au départ on est là parce que on m'invite, on me paye le train, on me reçoit bien, on est gentil avec moi et tout, parce que à la base je suis dans mon lit devant mon ordi en train d'écrire un texte, quoi, et donc un truc complètement pas solitaire parce qu'on l'a fait, enfin voilà, en l'occurrence c'est un projet à deux, mais quand même solitaire parce que l'écriture elle est solitaire, un truc qui pourrait rester de l'ordre du je fais ça pour moi, je fais ça toute seule, personne ne le voit. Ce qui n'est pas non plus impossible, parce que pour moi, l'écriture, c'est, pas, enfin, c'est d'abord une question de moment où on écrit, puis après, on fait lire et tout, mais il y a quand même un moment, les moments les plus forts de ma vie, et pas que ça, mais c'est quand même le moment où je suis en train d'écrire, quoi. C'est, cette intensité-là, elle est très forte. Et puis après, c'est quand même absolument merveilleux de se dire, mais ça m'amène là. Ça m'amène là, il fait nuit, on est là, toutes les deux, devant la mer, il fait nuit, on discute et... Tu vois, c'est rigolo parce que toi, tu me dis, moi, je vois autre chose. Puis en fait, moi, quand je te parle, je suis face à la mer. En fait, c'est pas du tout la mer que je suis en train de voir. Je suis en train de voir mon écran d'ordi au moment où j'ai écrit, tu vois, le livre, etc. Puis en même temps, je vois quand même la mer. Et quand je te dis, j'ai conscience que le livre m'amène là, devant la mer, quand je te parle, je la regarde aussi, tu vois. Et c'est toutes ces strates-là qui sont mentales, c'est des images mentales, mais c'est aussi des images physiques, puisque là, il y a de l'air frais qui arrive dans le cou, tu vois, il fait nuit, mais je vois ton visage, je vois tes yeux, tu écris, alors je sais que ce que je vais dire, ça a un écho, enfin, je le suppose, et en même temps, je le sais pas, parce qu'on se connaît pas assez, tu vois, et c'est pas grave, j'ai pas besoin de tout savoir, et toi non plus.
Lecture qu'on en fait, et puis les autres nous en parlent et enrichissent le regard qu'on a et transforment lentement le regard qu'on a sur le lieu. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, après, suivant la mémoire qu'on en a, mais ça s'empile, il y a des strates comme ça. On est dans un lieu, on pense à un autre, on pense à quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui est disparu, ou soi-même dans les différentes
les différents moments où on est passé dans ce lieu. Et voilà, et c'est là qu'on écrit un livre aussi, dans ces parcours de ville, dans ces parcours de, dans les paysages, dans les strates qu'on compose. On écrit chacun un livre qui peut être un livre collectif, qui a des chapitres en commun, qui a des entrées communes, et puis des choses très personnelles aussi, voilà, et qu'on arrive parfois à partager, parfois pas. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, et que laisse venir, reprendre dans une certaine mesure, avec chacun sa liberté, avec une règle du jeu, un parcours, tout en est, et puis un travail chacun de son côté, et en ayant une multitude d'échos, que si on avait travaillé volontairement l'un à côté de l'autre, en se disant qu'est-ce que tu fais, comment tu as travaillé, est-ce que toi tu as abordé ça comme ci, comme ça, on aurait complètement tué l'objectif. Alors que là, il y a des échos qui se fabriquent parce qu'on se connaît un peu, voilà, et puis qu'on... Voilà. Ouais, simplement parce qu'on travaille sur un même matériau, là en l'occurrence un parcours, des souvenirs liés au lieu. Qu'on utilise dans le numérique, sur Internet, ce principe de lien est la base. Après, on l'utilise généralement, enfin, tout le monde l'utilise de façon relativement simple et sans comprendre les rouages en dessous. Du moment qu'on arrive à destination, voilà, on est content. On ne va pas analyser forcément le lien du lien, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans la forme numérique, mais et là, avec besoin de me reposer sur des gens qui connaissent l'informatique et qui sont capables de mettre ça en forme, et ils ne sont pas si nombreux, c'est justement la forme aléatoire, par exemple, ou d'autres modes de lecture. Et alors, c'est aussi c'est le numérique, c'est Internet qui nous a offert ça, qui a accéléré ça, sur la lecture fragmentée, sur le fait que notre écriture allait se confronter à l'image, au son, à l'actualité, accepter l'intrusion et le dialogue avec des gens extérieurs qui sont nos lecteurs, qui eux-mêmes sont potentiellement des gens qui écrivent et qu'on peut lire. Donc avec une sorte de dialogue comme ça qui s'inscrit. Et là, je reviens sur l'image de la pelote plus que de l'arbre, avec vraiment quelque chose qui, à un moment donné dans nos univers, commence à devenir très compliqué et dont on a besoin de vraiment le poser, parfois avec des outils très, très anciens, vraiment sur un mur, faire tracer des lignes entre des feuilles pour y voir clair, parce que voilà, ça reprend un vieux truc qui est le schéma de notre cerveau aussi, avec les synapses et tout ça. Et pour arriver à cette complexité-là, il y a un moment où effectivement il faut le poser, et il y a un moment pour lui donner forme et raconter une histoire et offrir des lectures, des sens de lecture différents pour le lecteur, il faut lui permettre d'en avoir une visibilité avec un outil, voilà. Et laisse venir, ça a pris du temps pour ça. C'est-à-dire que ça ne nous a pas empêché d'avancer, et en fonction de l'avancée, le travail par rapport à l'image, ce qu'il ouvrait, ce qu'il nous permettait d'inventer ou faisait surgir, on s'est progressivement, ça nous a permis de voir plus clair sur la forme qu'on voulait, et on revient toujours sur les mêmes formes, effectivement, avec des entrées pour les lecteurs, lui permettent d'avoir un sens de circulation qui est le sien, mais justement parce qu'on est dans ces univers où on est dans l'ordre du fragment, et donc on a besoin, il n'y a plus seulement un sens de lecture avec un début, un milieu, une fin. Ça, c'est un peu terminé. On le voit au cinéma, on le voit dans différents arts. Et on est un peu... Il y a eu des percées dans les années 60 là-dessus, avec des grandes révolutions sur ces formes-là. Et puis...
après ça, après les années 60, on est revenu dans des formes très classiques, très commerciales, très voilà. Et dès que on essaye de casser ces modèles-là pour essayer de raconter d'autres histoires, parce que le monde a évolué et donc on est un petit peu obligé de coller à la vision qu'on a du monde. Et pour raconter le monde aujourd'hui, ben on utilise une technologie qui est celle d'Internet, avec des liens, avec des hypertextes, avec des entrées différentes, avec des médias, voilà, des balises. Et du coup, forcément, ça se ressent dans la forme d'écriture et dans la forme finale du livre.
Marseille. Ce matin-là, tu ne seras pas loin. Dans ma poche, peut-être. Et je commencerai tout bas à te parler. Je ne commencerai pas. Je t'ai toujours parlé. Et ce que tu réponds m'accompagne sans cesse en silence croisé. Prend sa source en ce qui, dans la circulation entre nous, s'est fixé, se crée, se renouvelle, ne se maîtrise pas. Toi, fugue, fuite, escapade, homme, texte, aimé, incarné aussi bien en un tu et plusieurs, et un seul, à nouveau. Un homme que je déplace sur le plan, dans les phrases, des cartes que l'on brouille. Et je pourrais t'écrire des pages et des pages, dans le secret des lignes tu demeuras toujours, entre le loin, le près, tellement important. Je croirais t'oublier dans le dépaysement, et tu demeureras. Important n'est pas le mot. C'est un terme cachette. Je te cache dedans et te cache aussi bien la place que tu prends. On pourrait dire parfois que tu envahis tout sans en avoir idée. Important te réduit. Je deviens raisonnable. Mais c'est un leurre, sais-tu? Cela vaut mieux. Laisse aller, me dit l'homme dans le train. Laisse, laisser, allez, laisser, allez. Oui, laisse. Hésite entre le tu, le vous, ne les prononce pas, s'éclipse de la phrase. Allez, laisse, me dit l'homme qui masse, tandis que ses doigts, mes épaules, un pré de la musique, des rires, le parfum du café, son épaule, mon dos, la forêt, la rivière, le long de la vallée, et ta compagnie silencieuse. Allez, viens, laisse aller. Épaules et nuque tombent dans ses bras. Et ce tu qu'il m'adresse accompagne le geste. Il n'y a plus de vous, plus de distance qui tienne. Allez. Encore une minute. Au bar des méandres, à la vitre gris-vert, un paysage pâle qui conduit à Marseille, sans passer par Asnières, sans passer par Dijon, ni Auxerre, ni Béziers. On approche. Je ne sais s'il est mieux de fermer ou d'ouvrir les yeux. Tandis que je m'abandonne, entre ses bras, ses mains, qu'il me plie, me redresse, laisse aller, laisse venir. Tandis que je me dis, voici le corps placé, retrouvé d'une pièce, point par point, rassemblé devant le paysage, je laisse aller. Chute tes phrases, c'est tout un. Tu es là, n'y es pas. Je pense à toi toujours, et ne pas y penser, c'est y penser encore. Allez. Ne plus rien contenir et attendre de voir et les trains et la mer.
Au cours de cette émission Espace Fine, nous avons pu entendre les voix de Sylvie Protin, chercheuse et universitaire, directrice littéraire du colloque Pour Cortazar, qui s'est déroulé en 2014 à Marseille, Fontevraud et Paris. Roberto Felucci, écrivain italien qui dirige une collection de livres numériques en Italie, intitulée Colirio. Des extraits du film de Gérard Poitou-Weber, Julio Cortazar, où l'on a entendu Michel Aumont lire un extrait des Autonautes de la Cosmoroute. Pierre Ménard et Anne Savelli, bien sûr. Et pour la musique, L'imprudence, extrait de l'album du même nom, d'Alain Bashung, et trois titres, extraits de l'album The Trinity Session, des Cowboy Junkies. Merci à Luc Joulet,
Bruno Jourdan,
Roberto Ferrucci,
Sylvie Protin,
Roxane Lecomte,
Jimini Panos,
et des remerciements particuliers pour leur patience à Sébastien Angéli de la famille Grenouille,
et dans la famille Jourdana, Louisa et Violette,
et dans la famille Salmona Fayard, Guillaume et Rachel.